Les Calédoniens, avec l'aide de l'État, doivent retrouver les voies d'un destin commun. Première déclaration de Marie Guévenoux qui entame une visite ministérielle de 36 heures sur le territoire. Le programme de la ministre déléguée aux Outre-mer est essentiellement constitué d'entretiens avec les forces politiques, mais aussi le monde économique. Le gouvernement réduit ses dépenses de fonctionnement, il instaure un jour de carence dans la fonction publique et la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements. Il propose aussi un régime dérogatoire sur la délivrance des autorisations d'urbanisme pour aider à la reconstruction. L'actualité à l'étranger et l'Iran promettent un châtiment sévère, réaction à la mort du chef du Hamas dans une frappe imputée à Israël. Un succès sur tous les plans. Gabriel Attal tire un premier bilan des Jeux Olympiques de Paris. Le chef du gouvernement démissionnaire a réuni ses ministres la nuit dernière en l'absence d'Emmanuel Macron. Le sport, justement, dans une heure, le Calédonien Maxime Grousset disputera sa finale olympique sur le 100 mètres nage libre. Avant lui, le roi des bassins Léon Marchand a été sacré sur le 200 mètres papillon. Léon qui a éliminé la concurrence dans les derniers mètres. Cette nuit, le camp tricolore a remporté 6 nouvelles médailles, dont 2 en or. La météo en Nouvelle-Calédonie enfin, le temps gris et maussade se maintient pour aujourd'hui. Les températures maximales restent en dessous des valeurs de saison, comprises entre 22 et 24 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec cette troisième visite en Nouvelle-Calédonie pour Marie Guévenoux, la ministre déléguée en charge des Outre-mer, qui est arrivée hier soir sur le territoire. Elle venait de Polynésie française où depuis vendredi dernier, elle représentait le gouvernement lors de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Une visite à la demande du président de la République et dans le cadre de l'exécution des affaires courantes, puisque le gouvernement, vous le savez, est démissionnaire. Selon son ordre de mission, Marie Guévenoux vient en Nouvelle-Calédonie aux côtés des agents engagés pour établir l'ordre, mais aussi pour répondre à la crise que connaît le territoire depuis plusieurs semaines maintenant. La ministre déléguée aux Outre-mer va donc passer 36 heures en Nouvelle-Calédonie, pendant lesquelles elle va échanger avec de nombreux interlocuteurs économiques et politiques. Mais dès hier soir, elle s'est d'ailleurs rendue au commissariat central de Nouméa, où elle a longuement discuté avec les policiers, les gendarmes et les agents de la sécurité civile, dont elle a salué l'engagement exemplaire ces dernières semaines. Un signe, nous a-t-elle dit, que malgré la situation politique en métropole, le dossier calédonien continue d'être traité quotidiennement.
À la demande du président de la République, au retour de Polynésie française où j'étais pour les épreuves de surf olympique, il a tenu, et sur ma proposition, à faire en sorte que je puisse venir ici en Nouvelle-Calédonie pour à la fois rencontrer évidemment en premier lieu les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile qui font un travail honnêtement extrêmement engagé depuis de nombreuses semaines pour établir la situation avec des résultats qui, si on préférait qu'ils soient meilleurs, sont néanmoins positifs puisque la situation s'améliore avec un temps long, j'en ai bien conscience, mais s'améliore néanmoins. Et puis aussi poursuivre les discussions avec les acteurs économiques que nous suivons avec Bruno Le Maire par visio depuis le début de la crise où on a des points de contact extrêmement réguliers avec les acteurs économiques. Donc je les verrai également demain et puis comme nous le faisons aussi depuis le début de la crise avec les acteurs politiques que je rencontrerai aussi demain pour une journée qui commence à 7h et qui finit au même moment qu'aujourd'hui, je crois.
Comment le dialogue qui a été rompu ces dernières semaines peut-il être rétabli selon vous ?
Alors c'est pas à moi de le dire, moi je viens ici vraiment en posture d'écoute parce que la situation politique particulière auquel on est confronté en ce moment en France fait que je peux pas faire d'annonces ou de déclarations qui seraient au-delà de la situation dans laquelle je suis et que je peux me permettre. Après, je pense que la clé, elle repose évidemment sur l'État, mais elle repose aussi sur les interlocuteurs politiques locaux. Et je pense qu'il faut... S'il y a un message que je peux donner, c'est celui que, ici, la population civile vit en plein cœur les émeutes et leurs impacts. Impact de sécurité, vous l'avez dit, mais des impacts aussi économiques. La population ressent ça très durement. Il faut maintenant qu'on trouve les moyens, à la fois les acteurs politiques locaux, puis l'État sera là pour, dans l'impartialité qui doit être le sien, aider à ça, faire en sorte qu'on retrouve les voies d'un destin commun.
Et avant cette rencontre avec les forces de l'ordre, Marie Guévenoux s'est entretenue longuement avec la présidente de la province sud, Sonia Baques, qui estime que cette visite doit permettre à la ministre de ressentir la préoccupation principale des Calédoniens, à savoir la sécurité.
Ce qui était très important, c'est la question de la sécurité, la question de, notamment du Mont d'Or et du fait qu'on ne peut pas continuer à supporter 12 semaines après d'être tenus en échec par 35 terroristes qui sont là-bas. Et je l'ai dit à la ministre, la France doit reprendre la main sur la liberté de circulation, sur l'ordre public dans cette région-là et libérer les 12 000 Mondoriens qui sont bloqués là-bas. En attendant, on a parlé très concrètement de la prise en charge des navettes maritimes pour permettre aux Mondoriens de se déplacer et la mise en place d'un ferry pour permettre un déplacement avec les véhicules, avec des marchandises pour se rendre d'un point à l'autre et le financement de la route de désenclavement qui est devenue parfaitement indispensable. Au-delà de ça, on a parlé évidemment de la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et de la nécessité de mettre en place des solutions pour amener des médecins en Nouvelle-Calédonie. Et puis la situation économique avec la grande difficulté que rencontrent les chefs d'entreprise sur les assurances et que rencontrent les collectivités pour boucler leur budget.
Une visite utile donc, même si pour Sonia Baquès, la réalité des Calédoniens n'est pas toujours perçue à Paris avec exactitude.
Ce que je comprends, c'est qu'il y a malheureusement un décalage entre la perception à Paris et ce qui se passe réellement à Nouméa. Donc je pense que c'était important qu'elle vienne ici pour mesurer l'ampleur de la gravité de la situation. Je pense qu'elle est là pour ça, elle voit tout le monde sur les deux jours de sa présence. Maintenant, il faut que ça se transforme concrètement parce que la Calédonie ne peut plus attendre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une démarche politique qui est engagée au mois de septembre. Mais d'ici là, si on n'a pas d'aide concrète sur la question du monde d'or, sur la question économique, sur la question sanitaire, la Nouvelle-Calédonie aura du mal à se relever. C'est toute la difficulté de notre situation, c'est que nous, on vit une situation dramatique et malheureusement dans un contexte où elle est ministre d'un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes, ce qui lui donne assez peu de marge de manœuvre. Mais il y a une vraie volonté, sinon elle ne serait pas venue, de continuer à accompagner la Nouvelle-Calédonie à la demande du président de la République.
Voilà donc pour ces premiers rendez-vous de cette visite ministérielle. Dès 7h ce matin, Marie Guévenoux rencontrera les présidents des associations de maires. Elle s'entretiendra ensuite avec le président du gouvernement Louis Mapou, puis avec les maires du Grand Nouméa, avant d'avoir un échange avec les représentants du monde économique. Son après-midi sera consacré aux entretiens avec les groupes politiques, les loyalistes puis le Rassemblement, Calédonie Ensemble, le groupe UCFLNKSC Nationaliste et le groupe UNI, et enfin l'Éveil Océanien. Marie Guévenoux qui terminera cette visite demain matin après un entretien avec le président du Congrès Roch Ouamitan. Une brève visite donc qui devrait surtout permettre à la ministre déléguée en charge des Outre-mer de prendre le pouls de la Nouvelle-Calédonie, près de 2 mois et demi après le début de l'insurrection, de mesurer les dégâts et les besoins et de sonder l'état d'esprit des responsables économiques et politiques.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous surtout des réponses de la part de Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer ? Si c'est dans le domaine de l'ordre public, vous tapez 1. Si c'est dans le secteur économique, vous tapez 2. Et si c'est sur la question de l'avenir institutionnel, vous tapez 3. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 87% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent craindre une dégradation à moyen terme du niveau sanitaire de la Nouvelle-Calédonie en raison du départ de nombreux médecins. Ils sont donc 13% à ne pas partager cette crainte. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Et avant de refermer cette page, un rendez-vous sur notre antenne maintenant. Les compagnies d'assurance sont évidemment très sollicitées en ce moment. Alors comment travaillent-elles? Quelles sont leurs contraintes? Et comment répondent-elles aux critiques qui leur sont parfois adressées? Rendez-vous ce matin à 7h30 puisque notre invité sera Thomas Chollet. Il est membre du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie. En attendant, il est 6h40. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, ce sera juste après la publicité avec notamment un certain nombre de mesures prises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie face à cette situation.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'instauration d'un jour de carence dans le secteur public et la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements des agents publics, ce sont les objets de deux avant-projets de loi du pays adoptés hier par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
L'objectif de ces mesures est de permettre à la Nouvelle-Calédonie de mieux maîtriser ses dépenses de fonctionnement en cette période de crise. Le gouvernement fait le constat que la situation budgétaire et financière de la très grande majorité des employeurs publics est largement détériorée en raison de la situation insurrectionnelle. Il propose en conséquence l'adoption de certaines mesures de rigueur budgétaire pour contenir les dépenses relatives à la masse salariale. L'avant-projet de loi instaure un jour de carence pourrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Il concernerait le premier jour d'absence d'un agent pour raison médicale et ce, à compter de la troisième absence prise dans l'année civile. Cette mesure s'applique en métropole depuis 2018 et elle aurait généré une économie annuelle d'environ 164 millions d'euros, soit près de 20 milliards CFP. Les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, bénéficient d'un dispositif d'avancement ou d'une revalorisation de rémunération qui se fait en fonction de l'ancienneté.
Et puis la seconde mesure concerne la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements des agents publics. Pour réduire le coût de la masse salariale et générer une économie au profit des employeurs publics, le texte propose de geler temporairement, sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le décompte de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon. Cette mesure représenterait pour la collectivité Nouvelle-Calédonie une économie d'au moins 100 millions de francs sur la période concernée. Et puis le gouvernement a aussi arrêté le projet de délibération qui concerne les mesures exceptionnelles en faveur de la CLR, la Caisse locale de retraite, de manière à assurer le versement des pensions pour les mois à venir. Et puis, il a également arrêté un projet de délibération du Congrès qui prévoit des mesures exceptionnelles en matière d'autorisation d'urbanisme. L'objectif est de permettre la reconstruction des ouvrages, constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits du fait des troubles à l'ordre public survenus entre le 13 mai et le 12 septembre 2024, Léana.
Pour le gouvernement, il est primordial de permettre la reprise des activités détruites et d'encourager la relance du BTP. Le projet de délibération vise donc à faciliter le relèvement des communes affectées par ces destructions et dégradations. Il propose un régime dérogatoire sur la délivrance des autorisations d'urbanisme pour la réfection et la reconstruction à l'identique des édifices sinistrés, tout en donnant la possibilité de mieux bâtir et plus durablement. Il s'agit de réduire les délais d'instruction lorsque la construction initiale avait obtenu une autorisation d'urbanisme. La reconstruction fait alors uniquement l'objet d'une déclaration préalable et les travaux peuvent démarrer dans un délai d'un mois.
Et autre conséquence de cette crise, le SMTU est en pleine réflexion et même en plein changement. Puisque le syndicat mixte des transports urbains en charge des transports publics terrestres dans l'agglomération a annoncé hier la résiliation de ses délégations de services publics avec Carouya et Car Sud. L'organisation du financement du SMTU était déjà complexe et onéreuse, mais depuis les émeutes et les exactions du 13 mai, il ne peut plus fonctionner, explique Naya Wateu. Elle est la présidente du SMTU et elle était hier notre invitée dans le journal de la mi-journée.
Depuis le 13 mai, c'est un coup d'arrêt qui a été mis tout simplement sur la capacité pour les collectivités à pouvoir financer ces deux délégations de services publics. Aujourd'hui, sur les dégâts, on est déjà sur un peu plus d'un milliard de francs estimés sur de la dégradation de matériel, d'équipement, d'une fragilité en tout cas de pouvoir reprendre un réseau normal. Et tout ça va bien au-delà de l'aspect de la sécurité qui pour nous reste primordial. Donc effectivement, on avait déjà une capacité pour les collectivités à financer un transport en commun qui était compliqué. Les exactions depuis le 13 mai et qui à certains endroits continuent viennent mettre un coup d'arrêt sur la capacité des collectivités à assumer ces deux DSP.
Le comité syndical du SMTU, qui regroupe toutes les collectivités contributrices, a donc pris la décision de résilier les délégations de services publics de Carouya et Car Sud. Une décision qui sera effective dans 6 mois, le 30 janvier 2025. Les délégataires du SMTU avaient été prévenus de cette situation à laquelle ils ont essayé de se préparer. Et il va falloir maintenant, explique le président du GIE Carouya, Joseph Saliga, préparer la suite.
C'était prévisible, hein, vu la situation aujourd'hui des collectivités. La présidente du SMTU l'a bien précisé. Aujourd'hui, financièrement, le SMTU est en difficulté et on avait déjà connaissance de la résiliation. Du coup, les discussions vont commencer la semaine prochaine et on va discuter notamment de la future DSP ou des futurs contrats de délégation. Donc, pour l'instant, on a eu cette nouvelle qu'on attendait. On savait très bien que ça allait tomber. Maintenant, le GIE s'est préparé. Il avait même fait une offre donc par rapport à la situation actuelle. Maintenant, on attend de voir les discussions, en sachant qu'on a quand même 250 employés qui sont impactés au sein de l'entreprise Carouya. c'est toutes ces discussions-là qu'il faut aborder là, avant la semaine prochaine.
Et en attendant, il s'agit de voir comment et à quelles conditions le réseau va pouvoir reprendre. Le SMTU travaille donc à la fois sur une éventuelle reprise du transport en commun. De toute façon, ce ne sera pas avant mi-septembre et en mode dégradé. Parallèlement, une fois effective, la résiliation des délégations de services publics au 30 janvier 2025, il faudra mettre en place une autre organisation du SMTU et du réseau, sachant, comme l'a répété Naya Wateo, qu'il ne pourra plus ressembler à ce qui existait avant le 13 mai. Et puis en bref, le foyer Bethany ferme ses portes aujourd'hui. Sont concernées les structures d'aide sociale de Trianon et du centre-ville. Le foyer accueillait des femmes en précarité depuis des années, mais faute de financement suffisant, la structure ne peut plus assurer un bon fonctionnement. Le foyer Bethany employait 11 salariés et accueillait en moyenne 80 personnes en situation de précarité.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h46.
Dans le reste de l'actualité ce matin, on va voir que des étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie vont en quelque sorte participer aux Jeux Olympiques. En tout cas, ils assisteront à plusieurs épreuves la semaine prochaine, dont des finales, et auront l'occasion de rencontrer les athlètes au Club France, Léo Fichou.
Eh oui, le projet s'intitule Excellence Paris 2024. Il s'inscrit dans la politique sportive de l'UNC. 14 étudiants sportifs de haut niveau ont été sélectionnés et leur programme à Paris est chargé. Les quarts de finale du basket à Paris-Bercy, la finale du handball masculin au stade Pierre-Mauroy de Lille, les finales également du football au Parc des Princes et puis une journée d'athlétisme au Stade de France. Les étudiants sont également invités au Club France. Ils pourront croiser leurs sportifs préférés. Une rencontre est même prévue avec les athlètes olympiques et paralympiques calédoniens. Les détails d'Éric Michalak, directeur du service des sports de l'UNC. Il est à l'origine du projet.
Il y a 9 étudiants qui partent de Nouméa. Il y en a 5 qui sont déjà là-bas sur place, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas prendre 14 personnes partant d'ici. Ça, le coût était trop important. Le financement étant à 90% privé, puisque c'est des sponsors. C'est un projet qui a été mis en place l'année dernière, donc l'argent avait déjà été versé à ce sujet. Il y a d'argent qui vient de l'université et aussi les familles pour ceux qui partent de Nouméa. Donc ils ont été sélectionnés avant tout sur le fait d'être étudiants et sportifs de haut niveau ou d'un certain niveau. Ce projet prend encore plus de sens peut-être actuellement parce que c'est important de donner notre image de la Nouvelle-Calédonie, parce que les gens en métropole n'entendent que voilà, des exactions, de la violence, etc. Et pour moi, bien évidemment, c'est pas ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est des jeunes aussi qui remplissent des formes d'excellence. Alors, ça peut être sportif, ça peut être artistique, etc. La Calédonie a besoin aussi, à un moment donné, voilà, qu'on la fasse rayonner autrement qu'à travers de la violence.
Parmi les 14 étudiants sélectionnés, on retrouve notamment Yazid Wajoka, le fils de Pierre Wajoka, mais aussi Loan Ville, la récente championne de France du 400 mètres et sociétaire du club de Koumac. Elle a hâte de s'inspirer des meilleurs athlètes de sa discipline.
Oui, bah, j'ai une grande chance de pouvoir voir l'athlétisme. Normalement, en fin de soirée, il y a le 400 et le 400 et il y a des finales de sprint, il me semble. Et il risque d'y avoir des records du monde, au moins sur le 400 mètres. Mais peu importe la discipline, ça restera impressionnant. De voir des athlètes qu'on connaît, forcément, ça ouvre le chemin, entre guillemets. Et ça fait plaisir de savoir que ces gens-là, ils ont travaillé et qu'ils sont là et que qu'on fera partie du public pour les encourager. Bah, j'espère vraiment du plus profond de mon cœur y être dans 4 ans. Et bon, on verra, hein, il reste encore du chemin, mais ça va passer très vite. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ma tête. C'est que là, bah, je rentre enfin dans mon Olympiade. C'est 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Et bah, ça y est, c'est maintenant que ça commence. En fait, il n'y a plus une année à perdre.
Les 14 étudiants de l'UNC et leurs accompagnateurs s'envoleront pour Paris dès le début de la semaine prochaine. Vous pourrez suivre leur aventure sur leur page Facebook Projet Excellence Paris 2024.
Et puis j'ajoute que dans un communiqué, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est félicité de voir la Nouvelle-Calédonie représentée aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. 8 athlètes seront, selon le gouvernement, les ambassadeurs de l'excellence sportive calédonienne. Le gouvernement qui affirme soutenir ses athlètes dans la préparation de ces compétitions de haut niveau et rappelle d'ailleurs qu'en 2023, 13 sportifs ont été soutenus pour un montant total de 15 100 000 francs pour préparer ces Jeux. Et on va d'ailleurs parler de l'un d'entre eux. Dans un instant, ce sera dans la page sport. Maxime Grousset qui sera aligné ce matin sur la finale du 100 mètres nage libre. Il est 6h50. Gabriel Attal lui estime que ces Jeux sont déjà une réussite sur tous les plans. On en parle donc dans un instant, juste après la pub.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Avec Canel, faites-vous plaisir. Profitez d'Internet en illimité à partir de seulement 2000 francs par mois. Personnalisez votre offre en combinant Internet, télévision, téléphonie et matériel. Toutes les possibilités s'offrent à vous. Et ça, ça fait plaisir. Souscrivez dès maintenant sur canal.nc.
Les piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Nicolas Legrand.
Et d'abord l'actualité à l'étranger. Après 10 mois de guerre entre Israël et le Hamas, le monde assiste-t-il à un tournant ? L'Union européenne appelle à la plus grande retenue après la mort d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, dans une frappe imputée à Israël à Téhéran. Le nouveau président iranien jure de faire regretter à Israël cet acte lâche, hein, c'est une citation. Alors comment la population israélienne anticipe les conséquences de cette opération, Ariane Ménage ?
Oui, l'armée israélienne a d'ailleurs annoncé à la mi-journée la fermeture d'une partie de l'espace aérien israélien pour les prochaines 24 heures au moins. Cette fermeture concerne le nord du pays, la région accolée à la frontière libanaise, et d'autres mesures pourraient suivre. Benjamin Netanyahou réunit en ce moment même son cabinet de sécurité au ministère de la Défense à Tel Aviv. Israël se prépare donc à une riposte qui pourrait potentiellement venir sur plusieurs fronts et simultanément. Depuis ce matin, le Hamas a reçu le soutien de tous ses alliés dans la région, l'Iran en tête, mais aussi le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou bien les milices chiites pro-Iran en Irak. Mais au-delà du risque d'une riposte militaire d'ampleur, les Israéliens s'inquiètent aussi des conséquences diplomatiques de cet assassinat ciblé, et c'est tout particulièrement le cas des familles d'otages. Elles craignent que le Hamas mette fin aux négociations qui se poursuivaient ces derniers jours pour un accord de cessez-le-feu à Gaza et pour la libération de leurs proches détenus dans l'enclave palestinienne.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, et les réactions ont été plutôt violentes toute la journée. L'Iran a été menaçant, décrétant 3 jours de deuil national, mais promet un châtiment sévère à Israël. La Chine, la Russie, la Turquie dénoncent un assassinat. Quant à l'autorité palestinienne, elle évoque un acte lâche, et la Syrie affirme que cet acte pourrait embraser toute la région. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël avait porté des coups sévères à ses ennemis ces derniers jours, en mentionnant explicitement l'élimination d'un cadre du Hezbollah libanais dans la banlieue de Beyrouth. L'actualité à Paris maintenant est Gabriel Attal qui se félicite. Selon le chef du gouvernement démissionnaire, la première semaine des Jeux Olympiques est un succès sur tous les plans. Il a réuni d'ailleurs les membres du gouvernement en l'absence d'Emmanuel Macron en vacances au fort de Brégançon pour faire un premier point sur les Jeux Olympiques.
Cette réunion, je le disais, a été d'abord l'occasion de tirer un bilan très positif de cette première semaine d'épreuves. Nous avons encore bien des défis devant nous. L'intégralité du gouvernement est pleinement aux commandes pour garantir la réussite de ces Jeux Olympiques.
Et dans l'attente de la nomination de son successeur, Gabriel Attal semble vouloir occuper le terrain pour se positionner au centre du jeu politique avant la rentrée parlementaire. Il est 6h53, vous écoutez RRB. Après la pause, les JO en compagnie de Léo Fichou.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous, comme pour nous, sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bon d'achat. À dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
Excellent début de journée, la suite de votre journal avec le sport. On retrouve Nicolas Legrand.
Et direction Paris pour les JO.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Alors les sports avec évidemment dans quelques minutes maintenant, à peu près 35 minutes, la finale du 100 mètres nage libre avec le Calédonien Maxime Grousset. Mais avant cela, Léo Fichou, la délégation française a glané 7 nouvelles médailles cette nuit aux Jeux Olympiques.
Et ça fait donc 25 médailles pour la France après sa victoire sur le 400 mètres 4 nages. Léon Marchand a récidivé il y a quelques minutes. Il a remporté la finale du 200 mètres papillon avec un nouveau record olympique à la clé, mais pas le temps de savourer. Il sera au départ dans quelques instants de la finale du 200 mètres brasse et pourrait donc décrocher une troisième médaille d'or en trois courses. Et en natation toujours, on le disait, on attend avec impatience la finale de Maxime Grousset qui pourrait donc suivre les traces de Léon Marchand. Le Calédonien est en finale du 100 mètres nage libre. Le départ sera donné à 7h39, heure de Nouméa. Pour suivre la finale, rendez-vous à la fan zone du Cercle des nageurs calédoniens. C'est juste à côté de la piscine, au snack au Faré. En triathlon féminin cette nuit, Cassandre Beaugrand a triomphé au terme d'une course intense en plein Paris. La Française s'est adjugée la médaille d'or grâce à une accélération fulgurante pendant la course à pied. Cassandre Beaugrand était très lucide sur sa course juste après l'arrivée.
Je me suis fait quelques petites frayeurs parfois, surtout avec les chutes à côté de moi, donc j'ai essayé de me replacer. Je savais que ça allait essayer d'attaquer du côté des meilleures rouleuses. Et j'étais attentive tout le long de la course. Quand ça a commencé à s'emballer, ça a mis un gros rythme dès le début en course à pied. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit forcément la Suissesse qui le mette. J'étais rassurée de voir Emma à mes côtés aussi. Dans le dernier tour, je savais que dans l'emballage final, j'étais normalement celle qui avait le meilleur finish. Du coup, j'ai fait un peu un coup de bluff et au final, ça a marché. Et par contre, c'était les 1500 les plus longs de ma vie, je pense. Et je pense que j'essaierai d'être jusqu'au bout. Et en fait, je ne voulais pas lâcher tant que j'avais franchi la ligne. Je pense que là, j'ai du mal à réaliser. Mais ce n'est pas que ma médaille, c'est la médaille à tous ceux qui m'ont accompagné quand je n'y ai pas cru. Et franchement, tous ceux qui m'ont relevé, je tiens à les remercier aussi.
Toujours sur le triathlon féminin, Emma Lombardi, 22 ans, s'est battue jusqu'au bout pour le podium. Malheureusement, la Française, pour ses premiers Jeux Olympiques, a terminé quatrième.
Forcément un peu déçue, évidemment, mais voilà, je suis très contente aussi. Il y a plein d'émotions qui se passent, j'ai besoin que ça redescende un petit peu, mais voilà, ça a été quand même une course extraordinaire à l'avant tout du long, avec un public de folie. Un grand merci à eux d'ailleurs d'être venus aussi nombreux nous soutenir. Et ça reste quand même mes premiers jeux, donc je suis quand même très contente pour cette première expérience.
En triathlon masculin, Léo Bergère décroche la médaille de bronze juste devant un autre Français, Pierre Lecor. Léo Bergère qui d'ailleurs a vécu en Nouvelle-Calédonie lorsqu'il était enfant. Et puis la 10e médaille d'argent tricolore depuis le début des Olympiades grâce il y a quelques minutes à Anastasia Kirpichnikova sur le 1500 mètres nage libre.
Et puis les Français ont également remporté 3 médailles de bronze cette nuit.
En escrime d'abord, l'équipe de France masculine de sabre s'est imposée aux alentours de 5h ce matin lors de la petite finale face à l'Iran. Une victoire 45 touches à 25 qui leur permet de monter sur la troisième marche du podium. Anthony Jean-Jean, lui aussi en BMX freestyle, après avoir complètement manqué son premier run, l'athlète de 26 ans a sorti un deuxième run quasi parfait. Anthony Jean-Jean, triple champion d'Europe et quadruple champion de France, a donc offert la première médaille olympique tricolore dans cette discipline. On l'écoute.
Sur le premier run, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je me sentais super bien, je me sentais pas forcément stressé. Je fais une erreur technique malheureusement qui arrive, mais qui ne m'arrive pas souvent, je ne suis pas tombé de la semaine. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai essayé de me ressaisir sur le deuxième, c'était pas facile. J'ai fait quelques petites erreurs sur le deuxième où je peux pas donner 100% de mon niveau. Et c'est cette médaille d'or qui me passe sous le nez à ce moment-là. Mais voilà, quand même content d'avoir pu poser le second run et de repartir avec une médaille. Première médaille olympique pour le BMX français. Ici, place de la Concorde en France, donc ça reste magique. Mon premier sentiment, il est amer, mais je sais que voilà, ça reste un bête de moment. J'ai partagé avec le public qui est venu en masse, donc ça sera c'est un souvenir gravé à jamais. Donc, je suis quand même super content.
Et puis Maxime Gael Ngaiap Ambou a lui aussi décroché la médaille de bronze, mais en judo cette fois dans la catégorie des moins de 90 kilos. Il a créé la sensation après une journée au-delà des espérances pour ses premières Olympiades.
Les autres résultats de la nuit maintenant avec du handball. Tout d'abord, les Bleus champions olympiques en titre s'en sortent in extremis.
Les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont arraché le match nul ce matin contre l'Égypte. Ils ont égalisé 26-26 à la dernière seconde. Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur puisqu'ils ont perdu leurs deux premiers matchs contre le Danemark et la Norvège. On passe au tennis de table. Félix Lebrun s'est qualifié pour les quarts de finale au terme d'un match fou remporté 4-7-3. En revanche, l'aventure de son frère Alexis prend fin cette nuit en huitième de finale. Il s'est incliné. Et en ce moment, il y a du football. Les féminines sont à Lyon. Elles affrontent la Nouvelle-Zélande. Les Françaises ne doivent pas perdre si elles veulent se qualifier pour les quarts de finale. À la mi-temps, le score est d'un but partout.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, avant de refermer ce journal, on joue.
de mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon de carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Chaque jour, dans le journal du matin et dans celui de la mi-journée, nous vous posons une question sur l'histoire des Jeux Olympiques et ceux qui en ont écrit la légende. Vous envoyez votre réponse par SMS au 3146 jusqu'à 17h, qui est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous aurez la bonne réponse, évidemment, à la question du jour et le nom du gagnant. Voici aujourd'hui notre question. Parmi ces athlètes français, quel est le seul à détenir 4 médailles d'or olympiques? Si c'est Tony Estanguet, vous tapez JO1. Si c'est Nicolas Karabatic, vous tapez JO2. Si c'est Lucien Godin, vous tapez JO3. Et vous envoyez votre réponse par SMS jusqu'à 17h au 3146. Je rappelle qu'il y a un bon d'essence de 5000 francs offert par notre partenaire à remporter.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Et ce journal ne serait pas tout à fait complet sans la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on vous retrouve Thierry pour le temps maussade.
Oui Nicolas, nous sommes en vigilance jaune avec une forte houle sur la façade ouest de Koumac à l'île des Pins. Pour une houle longue de sud-sud-ouest, voisine des 3 mètres, ce sera ce matin. Ça, elle va s'atténuer progressivement ensuite. Ce matin donc, le ciel sera couvert par des nuages élevés, des nuages bas pourront donner quelques averses faibles et ce sera par endroits sur l'ouest. Peu de changements du côté du vent, il oscillera de secteur sud et sur le sud-est. En général entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et Bélep. 5 à 10 nœuds sur le sud-ouest. Et il sera variable faible sur l'est qui reste à l'abri de la chaîne. Cet après-midi, le temps sera gris et maussade. Des faibles averses seront possibles sur le sud et la côte est. Le vent, lui, sera faible de sud-sud-ouest entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il sera orienté sud-est entre 10 et 15 nœuds. Et localement 15 à 20 nœuds sur le nord des Loyautés et le nord. Les températures maximales restent en dessous des valeurs de saison. Elles sont comprises entre 22 et 24 degrés.
Merci beaucoup Thierry.